Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, vendredi 22 juin 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, plusieurs hauts responsables de la République démocratique du Congo interdits d'entrer aux États-Unis. Les pourparlers de paix sud-soudanais devraient reprendre la semaine prochaine à Khartoum. Côte d'Ivoire, la révision du fichier électoral prend fin dimanche.
C'est pas tout le monde qui est obligé de venir se faire recenser. Ce qui fait que l'affluence, il n'y a pas grande affluence.
Reportage à suivre en partie magazine. Le président Donald Trump a demandé aux agences fédérales de réunifier les familles de migrants séparées par les autorités. Ne ratez pas les résultats de la Coupe du Monde, mais d'abord le journal. Centrafrique, des affrontements opposent depuis mercredi deux groupes armés dans la région de Bria, ville du centre. On entend des crépitements d'armes depuis mercredi sur l'axe qui va vers Irabanda, au sud de Bria. La MINUSCA a décidé d'envoyer une patrouille au sud de Bria. Ces affrontements opposent des membres du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique à ceux d'une milice d'autodéfense anti-Balaka. Il est signalé des morts et des blessés, mais il est difficile de dire combien. Bien exactement, a déclaré un conseiller municipal de Bria. Cette ville n'est pas touchée directement, mais les activités tournent au ralenti. La population a peur et préfère rester sur ses gardes. Le département d'État américain a interdit d'entrer aux États-Unis plusieurs hauts responsables de la République démocratique du Congo en raison de leur implication dans des cas de corruption visant à entraver le processus électoral. Le point avec Idriss Fall.
Le communiqué du département d'État ne précise ni le nombre, ni l'identité et la fonction de ces hauts responsables en RDC. La porte-parole Heather Nauert a averti que le gouvernement américain est déterminé à combattre la corruption, à soutenir des élections crédibles qui aboutissent à la première passation de pouvoir pacifique et démocratique de l'histoire de la RDC et à tenir pour responsables les personnes impliquées dans des faits de corruption ou de violation des droits de l'homme. Elle a appelé à des élections crédibles, transparentes, dans les délais en décembre 2018 pour que les Congolais puissent être libres d'exprimer leurs opinions sans peur de subir la violence ou l'intimidation. Par ailleurs, elle a exprimé de sérieuses préoccupations sur le rôle des militaires maliens dans la mort de 25 personnes dans le centre du Mali. Tiena Koulibaly, ministre malien de la Défense, a déjà reconnu ce rôle et Washington demande que l'enquête soit menée de manière crédible et transparente et espère que les auteurs vont répondre de leurs actes.
RDC toujours, une nouvelle centrale hydroélectrique de 150 MW a été inaugurée ce vendredi dans le Congo central. La centrale de Zongo 2 doit alimenter la capitale, comptant 10 à 12 millions d'habitants. Les travaux de construction de ce barrage, effectués par une entreprise chinoise en 6 ans, sont évalués à 360 millions de dollars. Une mise en service expérimentale d'un des trois turbo-alternateurs avait commencé en février. À noter que pas moins de 600 millions d'Africains ont des problèmes d'accès à l'électricité. En France, les parents de Naomi Moussenga ont réclamé l'ouverture d'une information judiciaire. La jeune femme, d'origine congolaise, est décédée à 22 ans. Son appel de détresse a été tourné en ridicule par une opératrice des services de secours d'urgence. Le responsable du SAMU de Strasbourg a démissionné. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a lancé sa campagne pour la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle tente d'obtenir l'appui de l'Union européenne. Madame Mushikiwabo, 57 ans, s'est déjà rendue au Cameroun et devrait se rendre dans d'autres pays africains, membres de l'OIF, dans les prochains jours. Mushikiwabo bénéficie du soutien de la France. Nigeria, les services de renseignement ont annoncé avoir arrêté deux commandants présumés du groupe État islamique d'Afrique de l'Ouest à Abuja le 5 mai. Ce groupe est une faction dissidente de Boko Haram. Quatre membres présumés de Boko Haram, dont deux spécialistes des explosifs, ont également été arrêtés, selon les renseignements nigérians. Cette dernière annonce intervient après la parution d'un article du tabloïd britannique The Sun, affirmant que les dirigeants du groupe État islamique en Syrie avait envoyé des combattants aguerris dans le pays africain pour préparer d'éventuelles attaques en Grande-Bretagne. Les pourparlers de paix sud-soudanais ont pris une mauvaise tournure, le président Salva Kiir s'efforçant de marginaliser le chef rebelle Riek Machar, même s'il a dû se résoudre à une nouvelle rencontre avec lui lundi à Khartoum. Bagassi-Koura.
Mercredi soir, la rencontre à Addis Abeba entre Salva Kiir et Riek Machar avait laissé percer un espoir de solution. C'était la première entrevue en 2 ans entre les deux rivaux. Les bureaux du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui préside l'IGAD, l'organisation régionale, avaient publié des photos des 3 hommes se donnant l'accolade. Et jeudi, un sommet a réuni à Addis Abeba plusieurs chefs d'État des pays membres de l'IGAD pour faire monter la pression. Vendredi, le gouvernement sud-soudanais a refroidi l'enthousiasme en affirmant que Riek Machar n'avait pas sa place dans le gouvernement d'union nationale. Nous en avons assez de Riek Machar, des dommages que Riek Machar a causés aux Sud-Soudanais, a déclaré le ministre de l'Information, Michael Makuei. Il a appelé M. Machar, s'il veut être président un jour, je cite, à attendre les élections. La guerre avait éclaté en décembre 2013 à Djouba lorsque M. Kiir Ndinka avait accusé M. Machar, son ancien vice-président de l'ethnie Nuer, de fomenter un coup d'État. Les affrontements ont fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire sans précédent.
Éthiopie, le groupe d'opposition Ginbot Sabat a annoncé qu'il cessait ses attaques armées dans le pays, d'après les réformes engagées par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Manifestation aux Comores, les responsables de 3 partis d'opposition ont été arrêtés à Moroni lors d'un rassemblement dénonçant le référendum constitutionnel prévu le mois prochain à l'initiative du président Azali Assoumani.
Une mère migrante du Guatemala a récupéré son fils après avoir été séparée de lui à la frontière américaine il y a 1 mois.
Voilà, petit problème technique. Nous partons donc ici aux États-Unis. Le président Donald Trump a demandé aux agences fédérales de réunifier les familles de migrants séparées par les autorités après qu'elles ont traversé illégalement la frontière avec le Mexique. Le point avec Irénée Herman Humpo.
Une mère migrante du Guatemala a récupéré son fils après avoir été séparée de lui à la frontière américaine il y a 1 mois. Les deux vont se rendre au Texas en attendant la suite de leur demande d'asile. La première dame, Melania Trump, a visité hier un camp de détention d'enfants. Plus de 2300 enfants ont été séparés de leurs parents sans papier depuis avril. Le président Trump a mis fin à cette pratique suite à l'indignation suscitée ici et ailleurs dans le monde. Même si le président américain semble désormais favorable à la réunification des familles, il reste ferme sur sa politique de tolérance zéro à l'immigration clandestine. Cependant, au Congrès, la Chambre des représentants a rejeté une proposition de réforme de la loi sur l'immigration et remis à la semaine prochaine un vote sur une autre proposition. Les républicains ont eu du mal à réunir assez de voix à cause de leurs dissensions internes.
J-2 avant les élections législatives et présidentielles en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 15 ans, brigue un nouveau mandat au pouvoir renforcé, mais fait face à 5 candidats qui veulent l'éjecter. Lionel Gaïma nous fait leur profil.
Le scrutin s'annonce comme le plus serré depuis l'avènement de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir. Muharrem İnce, son principal adversaire, est à la tête d'un parti d'opposition laïque. Depuis plusieurs semaines, les deux hommes s'invectivent et se répondent par meetings interposés. Meral Akşener est une professeure d'histoire de 62 ans. Elle s'est engagée en politique il y a 20 ans et a été ministre de l'Intérieur. Elle a fondé son parti il y a 8 mois. Selahattin Demirtas est un candidat derrière les barreaux. L'icône kurde fait campagne depuis une cellule de prison accusée d'activités terroristes. Temel Karamanoğlu, du Parti de la Félicité, est idéologiquement le plus proche de M. Erdogan. Enfin, Doğu Perinçek, à 76 ans, dirige un parti de gauche. Pour les élections législatives, il a choisi de faire cavalier seul. Ce docteur en droit a été incarcéré à de nombreuses reprises, notamment après le coup d'État militaire de 1980.
La Russie accuse l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques de préparer un rapport rempli de fausses preuves accusant Damas de recours aux armes chimiques dans la Ghouta orientale en Syrie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Tout de suite, le journal du mondial signé Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du mondial. Non, le Nigeria n'est pas mort. Grâce à une doublée d'Ahmed Moussa, les Super Eagles ont réussi contre l'Islande 2-0. L'exploit de relancer l'Afrique à la Coupe du Monde promettant une dernière journée de feu. Derrière la Croatie, déjà qualifiée après avoir corrigé la bande à Lionel Messi la veille 3-0. Les jeux sont ouverts dans le groupe D. Grâce aux deux buts du joueur du CSKA Moscou à la 49e et 75e, les Super Eagles reviennent dans la course et soignent l'image des équipes africaines. Après les éliminations prématurées de l'Égypte et du Maroc, l'Islande avait pourtant mieux entamé ce match où la première période s'est figée après deux tirs cadrés signés Gylfi Sigurdsson et arrêtés sans peine par Francis Ouzouo. Malheureusement pour lui, la star de l'île volcanique ratera complètement un pénalty qui aurait pu relancer son équipe à la 83e, sifflé après une consultation de la vidéo pour faute de Tyrone Ebouyi sur Sigurdsson. Il était déjà trop tard, les Nigériens avaient renversé le match avec deux buts de Moussa, eux qui n'avaient pas tiré une seule fois au bout des 45 premières minutes. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonsoir. Le plus expérimenté des représentants africains en cette Coupe du Monde, le Nigeria, est aussi la sélection qui a toujours dignement rempli cette mission, toute catégorie d'âge comprise, lors des grands rendez-vous internationaux. Souvent sur le podium en tournoi de jeunes ou aux Jeux Olympiques, le Nigeria version équipe fanion n'a jamais rendu une copie blanche en Coupe du Monde, se payant au passage trois participations au second tour, comme lors de la dernière édition au Brésil. Le secret de cette constance est l'importance d'un vivier exceptionnel dans le pays le plus peuplé d'Afrique, qui peut se permettre de produire génération après génération des talents à l'appel rapidement rodés dans les meilleurs championnats d'Europe. Le cru actuel est né de la table rase faite après l'élimination pour la dernière Coupe des Nations au Gabon. Le staff technique a alors mis en place une jeune équipe encadrée sur le terrain par trois vétérans talentueux, Obi, Moses et Moussa. La mayonnaise a vite pris, puisque le Nigeria s'est contre toute attente qualifié avec la manière dans un groupe très relevé en écartant le Cameroun, l'Algérie et la Zambie. Si sa défaite au premier match contre la Croatie s'explique surtout par la qualité de l'adversaire, sa victoire de ce vendredi face à une rugueuse équipe islandaise ne doit rien à personne, si ce n'est une prestation exceptionnelle de l'attaquant moscovite Moussa, qui a démontré avec bonheur qu'on peut être prophète dans son pays. L'Argentine est avertie pour le match du quitte ou double de la troisième journée, où le Nigeria aura un repère. Le match amical gagné contre ce pays il y a un mois. À bientôt.
Bien avant ce match Nigeria-Islande, il y a eu un duel sud-américain entre le Costa Rica et le Brésil. Neymar a soufflé le chaud et le froid, un pénalty refusé pour simulation, un carton jaune, un but et des larmes. Neymar est passé par tous les états, mais son Brésil s'est rapproché des huitièmes de finale. La Seleção s'est imposée 2-0, mais que d'émotion dans ce match. La star brésilienne a d'abord enfoui son visage dans son maillot après avoir raté une belle occasion. Puis l'arbitre, en visionnant des images grâce à la VAR, lui a refusé un pénalty pour une simulation grossière. Furieux du une autre décision arbitrale, le joueur le plus cher du monde, 222 millions d'euros, a ensuite tapé du poing dans un ballon, récoltant un jaune. Heureusement, Philippe Coutinho a relâché la pression qui pesait sur les épaules du joueur du PSG en ouvrant le score dans les arrêts de jeu à la 91e, son deuxième but du tournoi. Et ensuite, Ney a enfin trouvé le chemin des filets pour ouvrir son compteur personnel dans ce mondial. À la 97e, après toutes ses émotions, il a fini en pleurs à genoux sur la pelouse. Une victoire 2-0 du Brésil qui élimine donc le Costa Rica. Ce week-end, deux représentants africains effectueront leur deuxième sortie. Dès samedi dans le groupe G, la Tunisie tentera de se racheter face à la Belgique après sa première sortie soldée par une défaite 2-1 devant l'Angleterre. Dimanche, les Lions de la Teranga vont repartir à l'abordage à 15h temps universel, cette fois-ci face au Japon avec qui le Sénégal partage la tête du groupe E, 3 points chacun. Les Lions de la Teranga gardent le moral haut malgré le scandale d'Alan Sugar, un Britannique qui a essuyé mercredi un déluge de critiques après avoir publié un tweet assimilé les joueurs de l'équipe du Sénégal à des vendeurs à la sauvette sur une plage de Marbella. Amdine Si, notre consultant présentement en Russie, estime que cela n'ébranle aucunement le moral des Lions sénégalais. Écoutons-le.
Les joueurs sont mentalement blindés, hein, surtout des joueurs sénégalais. Et puis, c'est des joueurs qui ont l'habitude quand même de jouer au plus haut niveau. Ils jouent dans des championnats européens où, de temps en temps, ils rencontrent ces genres de scènes. On se rappelle encore de la scène où Kalidou Koulibaly a été traité de singe au niveau du championnat italien. Donc, ils sont préparés à ça.
C'est ici que s'achève ce journal du Mondial.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, c'est ce dimanche que prend fin l'opération de révision du fichier électoral. Une révision en prélude aux élections municipales et régionales de cette année. À l'exception de l'aile radicale du Front populaire ivoirien, le FPI, tous les partis politiques sont mobilisés dans le cadre de cette opération. Précision avec le correspondant de VOA Afrique à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Lancée lundi dernier à Grand Bassam, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, la révision du fichier électoral tire à sa fin. Une opération perturbée par le choc provoqué par les inondations qui ont endeuillé le pays. Dans ce bureau des votes de Yopougon, ce n'était pas la grande affluence à notre passage.
Il n'y a pas grande affluence. Les gens viennent, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui est obligé de venir se faire recenser. Se font recenser que ceux qui ont la majorité, qui ont eu la majorité à partir de mai, qui ont eu 18 ans, et puis ceux qui désirent changer de lieu de vote. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de venir se faire recenser. Ce qui fait que l'affluence, il n'y a pas grande affluence.
Si la quasi-totalité des partis politiques ont appelé leurs militants à se faire recenser, la tendance radicale du Front populaire ivoirien, le FPI, appelle par contre ses militants au boycott de cette opération. Laurent Akoun, vice-président du FPI.
Nous avons affirmé depuis le dernier trimestre de l'année 2017 que nous serons présents dans toutes les compétitions électorales. La condition que l'organe qui régule puisse être un organe consensuel. Que cet organe-là bénéficie de l'onction, donc de la confiance de l'ensemble des acteurs. Nous n'avons pas confiance dans cette institution. Que nous disons, asseyons-nous et discutons pour trouver un compromis.
Pour le RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, autre parti de l'opposition, pas question de boycotter cette opération. Ouattara Nyonzié, président du RPP.
Nous sommes pour que cette commission électorale soit revue. Mais nous ne lions pas les deux. C'est un acte administratif. Nous sommes pour la démocratie. Être pour la démocratie, c'est être pour les élections. Faire des élections, ça suppose qu'on est sur une liste électorale. Être sur une liste électorale, ça signifie qu'on a une carte d'électeur. Avoir une carte d'électeur, ça signifie qu'on s'est inscrit sur la liste électorale.
Sont concernés par cette révision du fichier électoral les nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui sont nés avant le 31 mai 2000 et ayant 18 ans révolus, ainsi que les personnes qui figurent déjà sur la liste électorale, mais qui souhaiteraient changer de lieu de vote ou changer de patronyme. La publication de la liste électorale est prévue pour le 18 juillet 2018. Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique, Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, les populations du village traditionnel de Han, dans la banlieue dakaroise, vivaient principalement de la pêche. Le tourisme y était florissant grâce à sa belle plage, considérée il y a quelques décennies comme une des plus belles d'Afrique de l'Ouest. Mais la pollution a fait fuir les poissons et les touristes. Reportage Abdourahmane Dia.
Ici, les vagues viennent accueillir les eaux usées du canal 6 qui traverse une zone industrielle à quelques encablures du port de Dakar. Le spectacle est désolant, des eaux usées, mais aussi des déchets solides comme des plastiques et des pneus. Bakesek, un natif de la localité, s'active depuis une trentaine d'années pour la protection de la baie de Han.
Nous sommes sur l'embouchure du canal 6. Le canal 6, on l'appelle le fléau de la baie de Han, parce que sur 3 500 km, ce canal draine les eaux des industriels. Ça draine les huiles des mécaniciens installés le long du canal. Ça draine aussi les eaux usées des quartiers qui sont au nord de Dakar. Et l'ensemble de ces eaux usées viennent finir au niveau de la baie de Han. Et normalement, ce canal ne devrait drainer que les eaux pluviales. Mais nous sommes à quelques mois de l'hivernage et ce canal est encore rempli d'eau usée, fétide, qui sent mauvais. C'est le premier pollueur de la baie de Han parce que ça draine énormément d'eau usée, pleine d'huile mécanique usagée. Ça draine aussi des milliers de tonnes d'ordures solides.
Résultat, ce village de pêcheurs fondé en 1910 étouffe et le poisson se fait désirer sur ses côtes. Mbaïfal est pêcheur.
Actuellement, côté saumon, côté Mbour.
En ce moment, on pêche du côté de saumon vers Mbour. Si on avait protégé la mer, s'il n'y avait plus d'eau usée, les poissons allaient revenir. Les poissons ont fui. Il faut aller jusqu'en Gambie maintenant, parce que là-bas, il n'y a pas d'eau usée. C'est ce qui explique cette situation.
Autre conséquence de la pollution et donc de l'agonie de la pêche artisanale, l'immigration clandestine. Bakesek explique comment ce village est devenu un symbole de ce fléau qui a endeuillé beaucoup de familles.
Et les jeunes qui faisaient la pêche ont été obligés d'immigrer. Parce que quand le poisson est devenu rare au niveau de la baie, ils sont allés chercher le poisson de plus en plus loin. Ils sont allés jusqu'à Casamance, ils sont allés jusqu'en Guinée et en Guinée-Bissau. Ils mettaient 6 jours pour aller pêcher. Mais s'ils mettent 6 jours aussi, ils vont en Espagne. C'est ce qui explique la facilité que les jeunes de la baie d'Anne, que ce soit Anne, Charo et Mbao, pour immigrer en Espagne clandestinement. C'est dans ces quartiers que nous avons eu beaucoup de morts. C'est dans ces quartiers que nous avons eu le plus grand nombre de départs pour l'Espagne.
Le gouvernement a lancé un vaste projet de dépollution de la baie d'Anne. Les canaux déversant les déchets sur la mer doivent être fermés et la commune devrait être entièrement assainie. Les travaux sont en cours. Abdourahman Dia, VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, qui sévit dans l'ouest de la RDC, est en phase de stabilisation. L'OMS espère arriver bientôt à déclarer la fin de l'épidémie, mais il y a encore du travail. John Lindon, notre envoyé spécial, fait le point avec le docteur Michel Yao de l'OMS à Kinshasa.
La tendance par rapport à l'épidémie d'Ebola est à la stabilisation, notamment dans les grandes villes. À Mbandaka, nous avons une vingtaine de contacts que nous continuons à suivre. Ces contacts viennent de cas qui viennent d'autres zones. À Bikoro, nous n'avons plus de contacts. Là où il reste encore un peu plus d'une centaine de contacts à suivre, c'est au niveau de la zone de santé de Iboko et Itipo. Et donc, dans ces zones-là, nous avons, avec le ministère de la Santé et les partenaires, renforcé la recherche active de cas, mais aussi le mécanisme de surveillance communautaire pour que les communautés puissent notifier les cas de décès communautaires, mais aussi des symptômes qui ressemblent à la maladie Ebola. Mais il y a encore du travail à faire pour pouvoir clôturer totalement, arriver à la fin de cette épidémie.
Quels sont les chiffres que vous avez? Combien de personnes ont été recensées souffrant d'Ebola et combien de décès exactement on a à ce jour?
Les statistiques à notre disposition, de commun accord avec le ministère de la Santé, nous avons 61 cas. Et parmi les 61, il y a 38 cas confirmés au laboratoire. Nous avons aussi 14 cas probables. Il s'agit de cas de décès hautement suspects d'Ebola. Et nous avons à peu près 9 cas suspects pour lesquels des examens sont en cours. Parmi ces 61, nous avons enregistré 28 décès, ce qui fait environ 47%. C'est une statistique qui ressemble un peu aux statistiques de l'Afrique de l'Ouest, l'objectif étant, pendant chaque épidémie, en essayant de perfectionner les moyens de prise en charge.
On a beaucoup parlé de la mise en place d'un vaccin expérimental.
Il s'agit d'un vaccin qui a fait ses preuves en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée, sur plusieurs milliers de personnes. Et donc, c'est pour la première fois que nous l'utilisons au tout début d'une épidémie. À ce jour, plus de 3000 personnes ont été vaccinées. Nous n'avons pas enregistré d'effets secondaires majeurs. Le vaccin est à sa phase finale. Il s'agit maintenant de suivre de potentiels effets secondaires. Donc, ce vaccin devient un atout pour la réponse à Ebola dans le futur, en tenant compte des 42 jours d'observation. Après le dernier cas, la stratégie consiste toujours à faire une détection précoce de cas, à faire un test de laboratoire et à vacciner tous les contacts autour du cas positif.
Le docteur Michel Yao de l'OMS à Kinshasa.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au menu. Island Music, la bonne musique de Caraïbes. soca, zouk, reggae, salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Thierrot. À la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Se ni wo wa we ashire ko o ti su loju ewe ah eh ko se we ko se bo ko se we ko se bo ko se we ko se bo ko se we ko se bo won ti po mi gata po o ji si dirty won ti po chemical po our side to death ko se we ko se bo ko se we ko se bo ko se we ko se bo ko se we What you call me got that for? But you see dirty. I think what can we come for? Our size to death. Was only as if I should it. Very good, what you are shit. I've ever felt to live for a mother and a shock of it. I should it. Got it, I shall go on. You want to see my mirror.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabab, al-Mujahideen ou al-Shabab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisations terroristes, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres aux groupes, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ces militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquête et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
bienvenue à bord